notre Père. Nous allons faire trois lectures. La première, c'est dans le prophète Isaïe, au chapitre 46. Nous allons lire ensemble les versets 9 à 11. Isaïe 46, les versets 9 à 11. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, je l'exécuterai, j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver, ce que j'ai conçu, je l'exécute. La deuxième lecture, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Nous lirons ensemble les versets 17 à 21. Chapitre 5, l'évangile de Jean, les versets 17 à 21. Jésus dit, Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, et se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus leur répondit donc, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également, car le Père aime le Fils, et il montre tout ce qu'il fait, et lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite des morts, il les fit vivre de même aussi. Le Fils fait vivre qui il veut. » Et le dernier texte, c'est dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 14, les versets 15 à 21. Jean 14, à partir de verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jusqu'ici donc nos lectures. Lorsque j'étais étudiant à l'Institut biblique de Nogent, c'est maintenant le deuxième dimanche et c'est la deuxième fois maintenant que je fais allusion à cela. Surtout, soyez rassurés, je ne vais pas raconter ma vie à l'Institut ici derrière la chaire. Lorsque j'étais donc étudiant à l'Institut, je faisais l'un de mes stages pratiques. C'était de tenir un stand, il y avait une année, où je tenais un stand de littérature chrétienne à la Cité internationale universitaire à Paris. Un jour, un jeune étudiant, un GBUcien, qui fréquente le groupe de GBU qui se réunissait à la Cité universitaire, m'avait demandé de venir avec moi pour tenir le stand. Je lui ai dit, mais bien sûr, c'est avec joie. Donc nous avons été faire le stand ensemble. Dès notre installation, le jeune a sorti une phrase un peu de style « Jésus est fils de Dieu ». Et vous avez deux jeunes étudiants qui se sont retournés contre nous avec un tel étonnement qui cache un petit peu une certaine violence. On a été vraiment très surpris. Et puis ils nous ont dit « Mais comment se fait-il que vous dites Dieu a un fils ?» Après discussion, en fait l'un est musulman, l'autre est juif. Bon, nous avons pris le temps quand même de discuter sagement et nous avons fini par au moins essayer d'expliquer pourquoi, en tant que chrétien, nous considérons que Jésus est fils de Dieu. Mais il est vrai, parler de Dieu pour les religions dites monothéistes ne pose aucun problème. Mais parler de Dieu tel qu'il est révélé par Jésus-Christ, par son Fils, c'est-à-dire, cela s'avère un peu difficile et parfois compliqué. Parler à un religieux, qu'il soit juif ou musulman, sur Dieu, cela ne relève, à mon sens, pas vraiment beaucoup de difficultés, presque d'aucune difficulté. Mais leur parler du Fils de Dieu, leur parler de la Trinité, cela pose beaucoup de problèmes. Cela risque d'être en tout cas incompréhensible pour nos amis. En effet, parler de la Trinité peut être un peu difficile à saisir dans un premier temps. D'ailleurs, il n'y a pas que nos amis musulmans ou juifs ou d'ailleurs autres qui ont du mal à comprendre la Trinité, puisque même les chrétiens ont aussi du mal à comprendre la Trinité. Ils ont pris beaucoup de temps pour formuler le concept, en tout cas pour formuler le dogme de Dieu tel qu'il est révélé par Jésus, c'est-à-dire ce Dieu unique. C'est un Dieu unique parce qu'il est un et trois, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité, un terme qui a été employé pour la première fois par Tertullien, mais il faut attendre 2 siècles après pour qu'un autre nord-africain, Saint-Augustin, puisse donner l'énoncé le plus complet. Que dit l'Écriture concernant notre Dieu? D'abord, la Bible enseigne en effet que Dieu est un. Dès la première page de la Bible, dès la première phrase à vrai dire, nous nous retrouvons devant un Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela, dès la première page de la Bible. Nous ne sommes pas en présence de plusieurs divinités, ou encore à la naissance des dieux qui se créent les uns par les autres, mais nous sommes devant un seul Dieu qui pose un acte créateur, qui crée. Et ce Dieu est unique, il est le seul, le créateur de l'univers. Lorsque Dieu donne la loi à son peuple, dans les 10 commandements, la première chose qu'il va rappeler, c'est-à-dire le premier commandement, c'est de rappeler, en effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de l'esclavage, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et le peuple d'Israël a, bien sûr, saisi cette leçon, puisqu'il va reprendre un texte de Deutéronome pour en faire sa confession de foi, une confession qui va répéter 3 fois, qui va réciter, pardon, matin et soir, les croyants religieux, et réciter cette confession matin et soir, et c'est ce qu'ils appellent Shema Israël, écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Nous avons lu des textes du prophète Isaïe, en fait, des textes vraiment, il y a beaucoup de textes très très vibrants à ce sujet, au sujet de Dieu, qui sont sous la plume du prophète Isaïe, et j'aimerais vous lire un qui se trouve au chapitre 44, qui dit « Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, son rédempteur, le Seigneur des armées, je suis le premier, je suis le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas Dieu. Qui est comme moi, qu'il crie, qu'il annonce et qui m'expose tout ce qui s'est passé encore ?» Ce qui va arriver, qui est comme moi? Le Seigneur fait comprendre très clairement à son peuple d'Israël qu'il n'y a pas d'autre Dieu, qu'il est l'unique Dieu qui existe, le seul Dieu. Et tout le reste n'est qu'idole, n'est que vent, n'est que souffle, n'est que rien. Pour rester, c'est normal, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament et que l'unicité de Dieu soit affirmée, Dieu un. Mais qu'en est-il dans le Nouveau Testament? Eh bien, dans le Nouveau Testament aussi, il nous parle de Dieu un. Et le premier dans le Nouveau Testament à nous parler que Dieu est un n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Avant de donner le premier et le plus grand commandement, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer le prochain, Jésus prend le soin de rappeler que Dieu est un. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Ensuite, dans le reste du Nouveau Testament, l'expression il n'y a qu'un seul Dieu, ou bien il y a un seul Dieu, revient à plusieurs reprises sous la plume des apôtres. Par exemple, à la question portant sur la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, l'apôtre Paul dit « Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Certes, bien des êtres célestes, terrestres, sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux au Seigneur, mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient et par qui nous vivons. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe, par qui nous sommes. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 8, les versets 4 et 5. Donc c'est cette vérité fondamentale aussi que l'apôtre Paul va rappeler à son jeune collaborateur, à Timothée, en lui disant, en effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Et de même, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc à la lumière de toutes ces déclarations, il y a encore bien d'autres déclarations dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Il est difficile de continuer à accuser les chrétiens d'adorer trois divinités. Notre Dieu est un, il est unique, un seul être, une seule nature divine. Et donc, l'unicité divine est bel et bien chrétienne, biblique, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Tout en affirmant que Dieu est un, la Bible nous affirme aussi que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Pour la divinité de Père, j'aimerais rappeler la prière de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il s'est adressé à son Père en disant « Mon Père, c'est dans Jean 17, mon Père leur est venu. » Et juste un peu plus loin, il dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. » Jésus qui appelle son Père Dieu. Encore le passage de l'apôtre Paul que nous avons cité, il n'y a qu'un seul Dieu, virgule, le Père, de qui toute chose vient. Pour la divinité du Fils, nous pouvons considérer les premières paroles de l'évangile de Jean. Dès qu'on commence la lecture de cet évangile, il dit « Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. » Et en lisant un peu plus loin, c'est-à-dire au verset 14, cette parole est identifiée à Jésus-Christ. Certains, notamment les musulmans, disent que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu dans l'Évangile. Mais cela n'est pas tout à fait vrai. Lorsque Thomas fait sa confession à Jésus en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus ne lui a pas dit « Arrière de moi Satan », mais il avait dit à un autre disciple. Il lui a pas dit « Écoute, cher Thomas, tu t'es trompé ». Mais au contraire, Jésus a bien reçu la confession de Thomas, qui le déclarait qu'il est Dieu. Et il va même plus loin en disant « Heureux ceux qui vont croire en Thomas », c'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu, Seigneur et Dieu. L'apôtre Paul dit cela de manière encore plus explicite en disant « C'est en lui, en Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est dans Colossiens 2, verset 9. Il n'y a aucun doute pour le Nouveau Testament donc que Jésus-Christ soit totalement vrai Dieu. Quant à la divinité de Saint-Esprit, c'est la déclaration de Pierre à Ananias qui peut nous être utile, qui peut nous éclairer. En effet, Ananias donc a menti et voici ce que Pierre lui dit. Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit et juste un peu plus loin, il lui dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est à Dieu que tu as menti. Il y a d'autres textes aussi dans le Nouveau Testament, comme par exemple le Corinthien, où Paul il dit, le Seigneur, l'Esprit, Dieu, le Seigneur, qu'il qualifie, pardon, l'Esprit par le Seigneur, nom donné à Dieu. Donc, à la lumière de toutes ces déclarations, nous ne pouvons que dire, en effet, le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu. Pourtant, nous n'avons pas affaire à trois dieux, à trois divinités, mais nous avons affaire à un seul Dieu. Les trois personnes de la Trinité se sont manifestées au même moment, dans un même lieu lors du baptême de Jésus-Christ. Nous avons le Père, nous avons Jésus qui se fait baptiser, qui sort de l'eau. Nous avons le Père qui fait entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » et l'Esprit de Dieu qui est là, qui est venu se poser sur Jésus sous forme d'une colombe. Là, nous avons la manifestation de ces trois personnes au même moment et à un même endroit. Cela pour mettre un peu fin à toutes ces polémiques qui consistent à dire « Finalement, nous avons un seul Dieu, mais qui se manifeste de trois modes différents ». En gros, l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté en tant que Père, dans le Nouveau Testament en tant que Fils, et dans la vie de l'Église, à partir de la Pentecôte, en tant qu'Esprit. Non, c'est Père, Fils, Saint-Esprit qui sont manifestés ensemble tout au long de la Bible et tout au long de l'histoire. Tel est donc le Dieu révélé par Jésus-Christ. Dieu un en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. La question qui se pose maintenant est de savoir comment rendre toutes ces données acceptables et compréhensibles à l'intelligence humaine. L'une des difficultés rencontrées par nos amis, notamment musulmans, lorsqu'on discute sur la question de Dieu unique révélé par Jésus-Christ, c'est la question de la Trinité. Ils nous disent comment ? Vous dites que Dieu est un, et en même temps vous dites que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il y a un problème mathématique, nous disent-ils. Souvent, quand en effet, on essaie d'expliquer la Trinité, on essaie de la simplifier pour la rendre compréhensible. Mais la première chose qu'il nous faut comprendre, c'est qu'affirmer la Trinité, c'est reconnaître d'abord un mystère que l'être humain ne peut pas maîtriser intellectuellement complètement. En fait, c'est une illusion de croire que nous pourrions véritablement comprendre tous les aspects de ce concept. Par contre, nous pouvons comprendre pourquoi nous ne pouvons pas comprendre le concept de la Trinité ou Dieu dans sa totalité. L'une des raisons, et la simple, la bonne raison à mon sens, c'est que notre cerveau est créé pour comprendre les choses qui sont créées. Or, parler de la Trinité, nous nous approchons de quelque chose qui n'a pas, enfin, d'un être qui n'a pas été créé, qui a toujours existé autant que tel et qui existera pour toujours. Parler de la Trinité, c'est parler de celui qui a toujours été, qui est, qui vient et qui sera toujours. En effet, la conception de Dieu trinitaire révélée dans la Bible peut être difficile à saisir pour notre intelligence, pour l'intelligence humaine d'une manière générale. Cette conception s'avère complexe, contrairement à la conception de Dieu, par exemple, telle qu'elle est révélée dans l'islam d'une manière classique. Elle est beaucoup plus compréhensible, celle de l'islam, par exemple. Mais il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'une conception est simple et facile à comprendre qu'elle est juste. Et ce n'est pas parce qu'une conception est complexe et difficile à comprendre qu'elle est fausse. Il y a, en effet, pour les musulmans, l'unicité divine se résume à l'unicité divine unitaire, c'est-à-dire il y a un seul Dieu et une seule nature et une seule personne, une seule nature divine et une seule personne. Mais l'unicité dans la Bible, telle qu'elle est révélée par Jésus, l'unicité divine, elle est trinitaire. Il y a une seule nature divine, mais nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons trois personnes. Contraire donc à certaines accusations portées contre la foi chrétienne, l'unicité, les chrétiens n'adorent pas trois divinités, mais adorent un seul, le vrai Dieu. La spécificité de l'unicité divine, telle qu'elle est révélée par la venue du Seigneur Jésus-Christ sur terre, c'est le fait qu'elle soit trinitaire. Face à ce mystère, en effet, l'intelligence humaine bute sur ses limites malgré de nombreux et fructueux efforts d'éclaircissements qui ont été déployés tout au long de l'histoire. Parmi ces éclaircissements, j'aimerais vous laisser un de notre frère Henri Blocher, qui est aussi donc notre théologien. J'ai eu l'occasion et le privilège de l'avoir comme professeur à la faculté de Vaux-sur-Seine, et c'est lors de mes cours que j'ai pris donc cette définition, qu'elle est toujours bonne et que rien n'a été changé à ses propres mots, mais je l'ai vérifié. Normalement, c'est bon. Donc, voici comment il le traduit. Donc, très, avec des mots très simples, mais compréhensibles. Il y a un seul Dieu, comme on vient de le voir dans les Écritures. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Pourtant, le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit ni le Père ni le Fils. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit subsistent de cet ordre. Le Fils procède du Père, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Vous voyez, en disant cela, on a rendu compte de la plupart des données bibliques. Une telle révélation de Dieu ne peut pas être une projection d'être humain, ne peut pas être une invention humaine, parce que l'intelligence humaine ne peut pas inventer quelque chose qu'elle ne pourra pas comprendre. Si elle invente, elle crée quelque chose, elle finit par le comprendre. Et or, parler de la Trinité étant quelque chose qui dépasse l'entendement humain, cela ne peut être que déduit des données que nous avons dans la parole de Dieu. Mais il reste quand même un mystère lorsque nous parlons de Dieu. Lorsqu'on parle de ce mystère, de ce Dieu, donc un et trois personnes, lorsqu'on parle de ce Dieu-là, le fait que ça dépasse notre entendement, que ce ne soit pas très simple, enfin simple à comprendre pour l'intelligence humaine, à mon sens, doit nous rassurer que cette conception de Dieu, finalement, n'est pas le fruit d'une création humaine, d'une invention humaine, mais c'est vraiment ce Dieu qui ne dépasse, qui n'est pas créé, ce Dieu créateur qui s'est révélé à nous, et cela doit donc nous rassurer du fait que notre Dieu, tel qu'il est révélé par notre Seigneur Jésus-Christ, est réellement Dieu. Certains peuvent dire, c'est bien tout cela, mais quelle incidence sur ma vie personnelle, quelles conséquences que cela peut avoir que d'avoir cette conception de Dieu, un et trois personnes, sur mes relations avec les hommes et avec Dieu. J'aimerais vous proposer deux niveaux d'application sur lesquels cette conception peut avoir des conséquences directes sur notre manière d'agir et de penser. D'abord, le premier niveau, c'est sur le plan personnel. Savoir que notre Dieu est un et trois personnes nous permet de comprendre que notre Dieu est amour. Si Dieu n'est pas trinitaire, comme c'est dans le cas, par exemple, dans la conception musulmane, il ne peut pas être amour. Il peut bien sûr aimer les autres. Il peut bien sûr aimer quelque chose qui est créé, quelque chose qui soit son vis-à-vis, comme la création, par exemple. Mais il ne peut pas s'aimer lui-même. Et lorsque Dieu a besoin d'autre chose pour exprimer, pour vivre son amour, autre que lui, là nous nous retrouvons à un Dieu finalement dans le besoin, un Dieu qui ne serait pas tout à fait vraiment Dieu, en tout cas un Dieu qui n'est pas autosuffisant. Ce serait contraire à la définition de Dieu telle qu'il est révélé dans la Bible comme étant le Dieu autosuffisant. Ce qui nous permet de comprendre que Dieu est amour, c'est le fait que cet amour est vécu pleinement, parfaitement, au sein même de Dieu, par les trois personnes de la Trinité, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire, tel qu'il est révélé par Jésus, est un Dieu d'amour. L'amour parfait est déjà vécu au sein de ces trois personnes de la Trinité, et ce, depuis l'éternité, et ce sera jusqu'à l'éternité. Ce Dieu-là n'a pas besoin de créer autre chose en face pour répondre à son besoin d'amour. Il vit son amour, l'amour vécu pleinement, parfaitement entre ces trois personnes de la Trinité. Il n'y a pas de manque donc au sein de Dieu. Jésus, à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, emploie cette phrase « le Père m'aime ». Et même par la suite, lorsqu'il parle justement de l'envoi du Saint-Esprit, il va dire « j'aime le Père ». Face à un Dieu qui n'a pas besoin de nous, l'amour, cela nous rassure d'une certaine manière, à mon sens, lorsque nous nous approchons de lui. Nous n'avons pas à faire quelque chose pour compléter quelque chose qui manquerait à ce Dieu. Mais non, nous avons affaire à un Dieu qui est parfait, complet en lui-même, qui n'a rien besoin de notre part pour qu'il soit réellement Dieu. Il est Dieu avec ou sans nous. Et de ce fait, nous pouvons nous approcher librement de lui sans avoir peur d'être absorbé ou d'être encore éternisé, voire même être frappé dès que nous ne répondons pas à la partie qui nous est incombée pour qu'il soit complètement Dieu. Donc c'est avec confiance, c'est avec assurance que nous pouvons nous approcher de ce Dieu-là, de ce Dieu qui vit pleinement l'amour en lui-même, et du coup nous pouvons à notre tour vivre son amour. Savoir que Dieu est amour, et savoir que Dieu est amour nous permet de nous approcher de lui toute assurance et confiance, et d'être au bénéfice en effet de cet amour-là qui est en lui. Et l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous montre son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous manifeste son amour. Donc il n'y a rien à lui apporter. Savoir cela, nous pouvons nous approcher de notre Dieu en toute assurance, sans peur et sans angoisse, mais en toute assurance et confiance. La deuxième chose, toujours sur le plan personnel, que notre étudiant de la Trinité peut impliqué aussi, touche au domaine relationnel. Si Dieu n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y aurait pas de communion en Dieu, il n'y aurait pas de relation en Dieu. En d'autres termes, parce qu'il y a trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, il y a la relation, il y a la communion entre ces trois personnes de la divinité, donc de Dieu. S'il y a eu une seule personne, il n'y aurait pas possibilité de relation et de communion, à moins de créer encore, là aussi, une fois de plus, un vis-à-vis, soit la création, soit l'être humain ou autre. Et dès qu'on commence à dire que Dieu a besoin de créer autre chose pour qu'il soit vraiment Dieu, nous ne sommes plus dans le Dieu tout-puissant tel qu'il est révélé dans la Bible. Le Dieu révélé par notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui possède la relation, la communion lui-même. C'est un Dieu qui vit une relation parfaite, une relation harmonieuse au sein de ces trois personnes de la Trinité. Et jeudi dernier, lors de notre étude biblique justement, nous avons parlé de cette phrase de Jésus qui dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et en cela, Jésus dit que tout ce qu'il fait, il ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il fait s'inscrit parfaitement et totalement dans la volonté de son Père. Et lorsque Jésus parlera de l'envoi de l'Esprit-Saint, il dira que le Saint-Esprit, entre autres, viendra rappeler à ses disciples tout ce que Jésus a enseigné, les paroles que Jésus a enseignées. Et les paroles que Jésus a enseignées ne sont autres que les paroles que le Père lui a demandé d'enseigner. Nous sommes là devant une parfaite relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le fait de savoir que notre Dieu possède en lui-même la communion, la relation, cela nous rassure aussi dans notre relation avec lui. Nous n'avons pas à avoir peur de ne pas avoir été à la hauteur dans notre relation avec Dieu, mais au contraire, nous pouvons nous approcher avec nos manquements, avec nos ratés, parce que nous savons aussi que nous allons de mieux en mieux. Nous allons faire de mieux en mieux grâce à Dieu et grâce à la grâce de notre Dieu lui-même. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas bien chanté, nous n'avons pas bien prié, ou nous n'avons pas bien prêché que cela changerait quoi que ce soit en Dieu, que cela frustrerait ou enlèverait une partie en Dieu. Non, Dieu possède la relation en lui-même. Il vit cette relation parfaitement. Mais il vit cette relation parfaitement. Il n'a pas besoin d'un complément quelconque. Et cela nous libère totalement lorsque nous nous approchons de lui. Nous pouvons le faire en toute liberté, sachant que notre Dieu est plein d'amour pour nous pardonner à chaque fois que cela est nécessaire et nous le confessons, et nous amener à faire des progrès dans notre relation avec lui, dans notre marche avec lui. Sur le plan communautaire maintenant, deux implications qu'impliquent l'unité de Dieu comme l'unicité de Dieu, l'unicité trinitaire comme elle est révélée dans la parole de Dieu, c'est d'abord au niveau communautaire, c'est l'unité et la diversité. L'apôtre Paul, pour exprimer l'unité de l'Église, de la communauté chrétienne et sa diversité, emploie à plusieurs reprises l'image du corps pour évoquer cela. C'est dans 1 Corinthiens 12. La conception de Dieu dans les religions monothéistes, qui est une conception de Dieu unitaire, qui ne fait aucune place à la diversité, cette conception-là peut en effet conduire, c'est logique qu'elle conduise à une communauté unique, presque identaire, qui ne fait pas vraiment beaucoup de place à la diversité, à la diversité et à la pluralité. On parle d'une communauté uniforme qui prie dans une même langue, qui chante dans une seule langue, etc. C'est le cas, par exemple, dans l'islam, qu'en arabe, bien que la plupart des musulmans ne soient pas arabes dans le monde. Il y a plus de musulmans non-arabes que de musulmans arabes. Mais la seule langue par laquelle on s'approche du Dieu de l'islam, c'est l'arabe. Il n'y a pas donc de place pour autre chose. Par contre, dans notre conception, à nous, chrétiens, de Dieu, tel qu'il est révélé par Jésus-Christ, Dieu trinitaire, il y a une réelle place pour la diversité dans l'Église. Et vouloir gommer cette diversité au sein de l'armée de Dieu, au sein du peuple de Dieu, c'est rejeter cette diversité qui existe même au sein de la Trinité, c'est rejeter cette diversité qui est voulue par notre Dieu, par le Dieu trinitaire. La diversité n'est pas une menace pour l'unité de notre communauté, de la communauté chrétienne. Quand je dis notre communauté, la communauté chrétienne n'est pas une menace, bien au contraire. Elle l'enrichit et elle la rend encore plus forte. Rejeter la diversité dans l'Église, ce serait, à mon sens, une inconséquence grave de notre foi en un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous faut au contraire chercher à laisser cette diversité s'exprimer joyeusement, librement, mais dans la belle unité du corps que nous avons reçu en Jésus. En effet, c'est la deuxième application communautaire, c'est Dieu un, cela implique aussi que nous sommes un seul corps. Tous les membres de l'Église forment un seul corps, dit l'apôtre Paul en Corinthiens. Cette unité, nous l'avons bien sûr de fait, elle nous est acquise par Christ, par notre union à Jésus-Christ, et cette unité que nous avons acquise en Christ, donc ce n'est pas une unité que nous allons acquérir, c'est une unité que nous avons déjà acquise en Christ, mais nous sommes encouragés à la préserver, à la garder, à la développer et à la nourrir. Cette belle unité de l'Église franchit, transcende toutes les barrières. Il n'y a plus de différence entre juifs, non-juifs, entre esclaves, hommes libres, entre hommes, femmes, unis à Jésus-Christ. Nous sommes tous, dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. En Jésus-Christ, nous avons reçu le même esprit, le Saint-Esprit, que Dieu nous a habité dans notre cœur, en nous, comme a fait M. Blocher allusion dans sa prière. Le Saint-Esprit qui habite en nous et qui a fait de nous sa demeure, son temple, sa maison. Et à partir de là, nous intégrons une nouvelle société, une nouvelle communauté, une nouvelle humanité, l'Église, le corps de Christ, où les barrières ethniques, sociales, n'ont plus aucune place au sein de l'Église. Le Saint-Esprit fait naître une communauté fraternelle où tous forment un seul corps, malgré les différences qui ont habituellement, ou bien dans la société, qui ont effet plus séparateur. Voilà donc en quoi notre conception de Dieu un, entre trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, peut avoir des conséquences directes sur notre vie personnelle, dans notre vie personnelle, notre relation avec Dieu, notre approche de Dieu et notre communion avec lui, et dans notre vie communautaire, c'est faire place à la diversité dans le souci de préserver l'unité de la communauté. Donc, chers frères et sœurs, même si nous n'arriverons jamais à saisir totalement l'être de Dieu par notre intelligence, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, nous devons nous contenter de ce qui nous a été révélé par Dieu lui-même, à savoir qu'il est un Dieu un et Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ce Dieu unique que nous sommes appelés à connaître jour après jour, dans une relation personnelle et aussi relation communautaire que nous sommes appelés à connaître comme nous le demande, nous le rappelle l'apôtre Pierre. Ce Dieu unique, l'apôtre Pierre nous le rappelle, qu'il est le seul, le vrai Dieu, Dieu le Père, qui nous a choisis d'avance, conformément à son plan, et nous lui avons été consacrés par le Saint-Esprit pour obéir à Jésus-Christ. C'est cela, c'est comme cela que l'apôtre Pierre introduit sa première épître au verset 2. Obéir à Jésus-Christ, obéir à son commandement, c'est le commandement qu'il nous a laissé, c'est aller faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.